peux vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
On va se rendre, toujours dans cette fin du mois d'août, à Saclay, puisque avait lieu la deuxième édition des Fêtes des Moissons. Et nous allons entendre un entretien qui a été réalisé autour de cet aménagement, depuis 2005, des terres de Saclay. Bonne écoute. Ce 27 août 2022, on est près de Villiers-le-Bacle, sur le plateau de Saclay, dans l'Essonne. Et c'est la deuxième édition des mois. Et on va parler, pendant cet entretien, de ce qui se passe sur le plateau de Saclay. Et on va en parler avec notre interlocuteur, mais qui va se présenter.
Oui, bonjour, je suis Michel. J'appartiens à une association de protection de l'environnement qui est agréée à titre régional. Le plateau de Saclay, j'y habite depuis 36 ans. Je suis ce qui s'y passe vis-à-vis de son aménagement depuis 2005. Alors 2005, c'est l'année de l'opération d'intérêt national. Il faut savoir que le plateau de Saclay, depuis la dernière guerre, a toujours été le rêve des urbanistes et des technocrates. Représentant une grosse tache verte très près de Paris, hein, à 20 km de Notre-Dame. Bah, une tache verte, pour ces gens-là, c'est un espace vide qui n'attend que de la construction. Bon, ça avait commencé déjà sur le plateau de Saclay avec l'installation en particulier du centre de recherche du CEA, le Centre Énergie Atomique. À l'époque, c'était même Joliot-Curie qui était venu calmer la crainte des habitants, qui, il faut savoir qu'en 1947, c'était pas loin quand même d'Hiroshima et Nagasaki, et que leur parler d'énergie atomique, ça avait effrayé tout le monde. Bon, il a réussi à calmer la colère locale. Le CEA s'est installé. Puis il y a eu aussi un centre d'essai de l'armée pour essayer des moteurs d'avion. Mais tout ça, ça restait très isolé au milieu des champs. Dans les années 70, une autre vague. Alors cette fois-ci, c'était dans la foulée des villes nouvelles qui s'installaient autour de Paris. Par chez nous, il y a eu 50 ans en Yvelines. Et il était question de renforcer autour des établissements qui existaient déjà, hein, le CEA, le CEPR, de renforcer le déplacement d'écoles et de centres de recherche, déjà dans les années 70. Le projet a fait déplacer, Polytechnique, qui est venu à Palaiseau, Supélec, qui est venu à Gif-sur-Yvette. Mais plus, c'était trop. C'était trop parce que, à l'enquête publique, il y a eu une levée de boucliers de la population où plus de 4000 réponses négatives ont été enregistrées. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, il n'y avait pas Internet. Hein. Donc c'était des réponses, il fallait se déplacer, écrire dans les cahiers d'enquête. C'est pour montrer un peu la motivation des gens contre ce projet d'urbanisation. Le projet donc s'est limité et a été retiré. Mais en 2005, nouvelle poussée. Et alors cette fois-ci, l'État, gros malin, pour éviter les déboires du passé, a retiré le pouvoir aux collectivités territoriales en créant une opération d'intérêt national. À partir de ce moment-là, l'État avait la main sur les opérations d'aménagement. Et il a créé, alors après des études, des discussions, des choses comme ça, il a créé deux établissements publics, qui est l'établissement public Paris-Saclay, à l'époque, et la Société du Grand Paris. L'établissement public Paris-Saclay avait pour mission de développer un centre, technologique de recherche et d'enseignement, selon les mots sarkozyens, de visibilité mondiale. La motivation était justifiée par Valérie Pécresse en disant que nos chercheurs allaient pouvoir créer une certaine synergie en discutant de leurs travaux dans la même cafétéria autour de leur tasse de café. On voit le niveau. C'était pourtant à l'époque déjà où, ça y est, Internet fonctionnait entre tous les centres de recherche et les chercheurs n'avaient pas attendu une cafétéria pour se rencontrer, discuter ensemble, échanger. Toujours est-il que cette opération d'intérêt national, avec ces deux établissements publics d'aménagement, ont débouché sur l'urbanisation de 400 hectares de terres agricoles sur le plateau de Saclay, et par la création d'une boucle du Grand Paris Express, la ligne 18, appelée ligne verte, n'est-ce pas ? Sachant que, quand on regarde son tracé, elle va traverser 13 km de champs. Un métro utile, n'est-ce pas ? Bon, donc, les associations de protection de l'environnement du plateau de Saclay se sont élevées contre ces projets depuis la loi Grand Paris de 2010. Des projets qui étaient déjà contestés, en particulier la ligne 18, déjà par un rapport sénatorial, le rapport aux années, qui la considérait comme démesurée. Hein. Elle avait été contestée par la Cour des comptes, qui considérait que jamais elle ne serait rentable vu le peu de voyageurs attendus. Elle a été contestée par le Cercle National des Transports, une assemblée de spécialistes de haut niveau qui protestait en disant que la construction de cette ligne et du Grand Paris Express allait mobiliser tous les moyens techniques et matériels qui étaient nécessaires pour améliorer ce qui ne fonctionnait pas sur les réseaux déjà existants. Donc, malgré toutes ces contestations d'instances éminentes, et pas des simples citoyens qui disaient « j'en veux pas dans mon jardin hein. », donc, malgré toutes ces contestations, le projet a avancé. Nos associations de défense de l'environnement se sont regroupées, ont déposé des recours contre l'expropriation de terres agricoles. Alors, il faut savoir que sur ces 400 hectares dont j'ai parlé, il y a à Corbeville, il y en a 25 qui sont des champs très fertiles. Sur une zone, une ZAC, qui fait 75 hectares, et ZAC qui comprend aussi une friche industrielle. C'est-à-dire que ça a passé par une ZAD, puis par une ZAC, enfin bref, cette zone d'activité concertée, là, le projet prévoyait de construire, disons, quelques installations de recherche, mais surtout des logements, d'en faire un quartier urbain au milieu de deux campus. Le projet qui se développe, c'est un projet où on va construire les logements sur les terres agricoles et où on va arborer la zone industrielle la friche industrielle, l'arborer pour en faire un parc. Cherchez l'erreur. De part et d'autre de ces terres agricoles expropriées, il y a aussi deux autres zones d'activité concertées, la ZAC Polytechnique et la ZAC Moulon. ZAC Polytechnique à côté de l'école Polytechnique, qui, dans les années 70, s'était installée dans un campus qu'on peut appeler quand même de très agréable, un vrai campus qui ressemblait à ceux qu'on pouvait voir et qui sont vantés aux États-Unis, un campus où les étudiants bénéficiaient aussi de lieux de verdure, de lieux de nature. Eh bien, on va amputer ces lieux de nature du campus polytechnique pour y construire des pareils, écoles, centres de recherche, comme, disons, comme à côté. Sur le campus Moulon, c'est à côté de Supélec qu'on réitère la même opération. Et le tout va faire, sur une bande de 7 km de long, va faire ce que les édiles se refusent d'appeler une ville nouvelle, mais une extension des quartiers de leur petite commune. Sur 7 km, on va trouver un complexe qui va recueillir 70 000 personnes, entre étudiants, enseignants, chercheurs et puis personnel de service et autres pour leur logement. 70 000 personnes, mais c'est pas une ville nouvelle. Hein. Bon, bah non, parce que dire ville nouvelle, ça aurait fait peur. Hein. Ça aurait fait peur aux petites communes riveraines. Bon.
Oh, ça faisait un peu vintage.
oui, aussi. Ouais. Bon, donc, et qu'est-ce que l'on ramène comme école? J'en ai peut-être pas déjà parlé. Là, j'ai dit centrale. J'ai dit l'école normale supérieure de Cachan, Agro-Paritech pour des établissements en banlieue parisienne, et surtout le centre de Grignon. Bref, on ne crée aucun établissement nouveau, on ne crée aucun centre de recherche, on ne fait que délocaliser ce qui existait déjà, c'est-à-dire en dépouillant des communes d'une activité quand même qui était riche pour elle et pour la vie culturelle aussi dans ces communes. Hein. Non, on ramène tout ça sans rien créer sur le plateau de Saclay. On prive les gens, étudiants et chercheurs, des moyens de vie et de transport qu'ils avaient là où ils étaient. Hein. À Châtenay, Central était en bordure du parc de Sceaux, à côté du RER. À Cachan, l'ENS était pareil dans un lieu assez verdoyant et pas loin du RER non plus. Non, tout ça vient sur le plateau de Saclay en leur disant « Vous allez avoir un métro. Vous plaignez pas, vous allez avoir un métro. » Sauf que le métro n'était pas là hein, et que les étudiants qu'on déplace auraient fini leurs études le temps qu'il arrive. Bon, le métro, on peut en parler. Le métro, la ligne 18, tracée Orly-Versailles, en passant par Saclay-Saint-Quentin-en-Yvelines. On peut comprendre une certaine utilité au tronçon Orly-Massy-Saclay, dans la mesure où, bah, une fois le vin tiré, il faut le boire, une fois les écoles et les centres de recherche construits, il faut les desservir. Ça, on peut comprendre. Mais alors après Saclay, la partie qui rejoint Saint-Quentin-en-Yvelines traverse uniquement des champs et sans aucune gare. Ensuite, la partie qui relie Saint-Quentin-en-Yvelines à Versailles double déjà des liaisons existantes, hein, liaisons SNCF et RER. Mais quelqu'un y voit un très gros intérêt à cette ligne, c'est qu'elle passe par le plateau de Satory. Et le plateau de Satory, le maire de Versailles l'appelle son nouveau quartier moderne de Versailles. C'est là où, toujours dans le cadre du Grand Paris, vont être construits aussi des laboratoires de recherche et des habitations et des logements. Alors, le fait qu'il y ait une gare de la ligne 18 à Satory fait qu'il va y avoir une liaison Satory-Versailles, très courte et totalement gratuite pour la municipalité de Versailles. Hein ? puisque c'est la région qui va payer le déficit. Donc, le maire est un ardent défenseur de ce bout de ligne 18 qui ne fait en gros qu'une desserte locale et impose pour ça tout un tronçon qui ne sert à rien. Tronçon qui ne sert à rien parce qu'il est déjà doublé par le RER C qui relie Massy à Versailles, qui n'apportera aucun gain de temps, même pas pour aller à Orly, parce que déjà, avec le tramway T4, je pense, on peut par le RER C et le T4 rallier Orly dans le même temps qu'avec la ligne 18. Donc, on a ici un projet inutile et imposé.
Une fois de plus, comme un peu ce qui se passe au nord de Paris sur le triangle de Gonesse, des terres fertiles et agricoles.
Ah oui, c'est 400 hectares. 400 hectares de terres agricoles qui vont être artificialisées, enfin qui sont déjà en grande partie artificialisées, sur un total qui faisait 2700 hectares. Parce que le plateau de Saclay, du point de vue agricole, et ça c'est une chose qui avait totalement été oubliée dans tous les discours et les slogans du Grand Paris, c'est que le plateau de Saclay n'était pas une tache vide à urbaniser, mais avait une vocation agricole, compte tenu de certaines qualités exceptionnelles. Ce plateau comporte une épaisse couche de limons accumulés pendant des millions d'années par les vents, limons qui se sont déposés, alors limons très fertiles, qui se sont déposés sur une couche d'argile, ce qui fait qu'actuellement, il y a une nappe suspendue en haut du plateau de Saclay. Sous les 6 à 8 mètres de limon, il y a une nappe phréatique suspendue. Et vous pouvez venir voir, vous verrez des champs de maïs très hauts, très verts, à l'heure actuelle, alors que nous sommes en pleine sécheresse. Et aucun arrosage, aucun dispositif d'arrosage, parce qu'ils prennent leur eau par capillarité, par leurs racines, dans le limon humecté par la nappe phréatique. Donc c'est une caractéristique exceptionnelle qui produit des rendements à l'hectare parmi les plus élevés d'Europe. Et c'est un crime que de détruire de telles terres agricoles. À l'époque où on se dirige vers des problèmes d'autonomie alimentaire, c'est incompréhensible. Incompréhensible qu'on ait laissé faire un projet qui date du XXe siècle, à l'époque où les gens n'étaient pas trop préoccupés d'écologie, à l'époque où les gens misaient tout sur le développement, sur la croissance, l'urbanisation, les choses comme ça. Eh bien, cet état d'esprit a été conservé et est à la base de ce projet d'un autre âge qui est, pour aujourd'hui, un crime contre l'environnement.
Qu'est-ce qui peut se passer un petit peu pour inverser la tendance? Parce qu'on voit des projets qui se multiplient. Là, on parle ici à Saclay, mais il y a par exemple ces réserves d'eau, ce qu'on appelle méga-bassines. On marche un petit peu sur la tête. Qu'est-ce qui pourrait un petit peu faire inverser la tendance aujourd'hui?
Écoutez, je crois qu'il n'y a qu'un seul remède, c'est les jeunes. Parce que les jeunes, eux, n'ont pas baigné dans cet état d'esprit post-30 glorieuse. Les jeunes n'ont pas été biberonnés au néolibéralisme. On en trouve maintenant qui se posent des questions, qui, bien que suivant des études prestigieuses, refusent ensuite d'engager leur vie dans des carrières écocides. Faut pas miser sur les vieux. Et je parle en connaissance de cause, j'ai 78 ans. Bon, je suis un petit peu une exception dans la mesure où je suis resté jeune. Je suis resté jeune parce que mon fils a fait mon éducation. Mon fils a refusé de passer son diplôme d'études supérieures parce qu'il a passé son temps à consulter et faire des recherches en écologie. Il s'est investi dans des organisations militantes. Il s'est retrouvé zadiste à Notre-Dame-des-Landes, où je suis allé le rejoindre et j'ai pu me rendre compte de ce que pouvait être l'activisme. Et c'est aux jeunes que j'appelle pour vraiment changer de cap. Changer de cap est absolument nécessaire à l'heure actuelle. On voit les conséquences de ce que nos développements passés ont entraîné. Le rapport du GIEC est implacable Et puis, dans la vie de tous les jours, eh ben, parlons-en à tous ceux qui souffrent de sécheresse, d'inondations, d'éboulements et autres, de tous ces bouleversements de la nature. Hein. Ça y est, c'est devant nous. Plus personne
ne...
On est au pied du mur, plus personne ne peut le nier.
D'où aussi l'occupation ici de cette partie de Saclay, aujourd'hui où on est, sur cette deuxième fête des moissons. Ce qui peut être aussi encourageant, et puis on peut aussi appeler les gens à rejoindre aussi tous les lieux qui sont occupés.
Nous, on s'en est pas privé hein, depuis un bon moment. Le problème un peu, c'est que là, l'endroit où nous sommes, est une zone privilégiée de la banlieue parisienne. Privilégiée déjà de par son cadre. Hein. Un cadre, disons, naturel, de verdure, de champs, de forêts, de rivières. Franchement, c'est très joli. Les urbanisations sont encore limitées. 50 ans en Yvelines l'a été en s'étendant certainement trop, mais sans pour autant être monstrueuse. De l'autre côté, bah, on peut regretter quand même le caractère exagéré de Massy. On peut regretter que Palaiseau se soit ingénié à suivre l'exemple de Massy. Mais ça s'arrête encore là.
Quelque chose que vous voulez rajouter, qu'on aurait oublié ?
Bah écoutez, oui, il faut que je cite aussi les recours contre la ligne de métro, hein, ligne que j'ai décriée. Donc mon association associée à 7 autres associations, c'était regroupant pratiquement tout ce qui était essentiel pour la protection de l'environnement dans la région du plateau de Saclay. Et en étant, disons, sous l'égide de France Nature Environnement, nous avons déposé un recours contre la déclaration d'utilité publique de cette ligne 18. Alors d'abord, un premier recours contre la première déclaration d'utilité publique. Puis ensuite, un second recours pour la modification de cette ligne 18 qui introduisait à Saclay une gare qui, dans la première DUP, n'était pas prévue, était annoncée, mais n'était pas prévue. Parce qu'il y avait des réserves concernant la possibilité de faire cette gare à côté d'un centre de l'énergie atomique, bah, ces recours ont été déposés devant le Conseil d'État parce qu'il s'agissait d'attaquer un décret ministériel. C'est des recours one shot, hein, c'est-à-dire une fois jugé, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de nouveau recours. Hein. Bon, le Conseil d'État a pris son temps, le Conseil d'État nous a déboutés, tout en reconnaissant par ailleurs la justesse de pas mal de nos arguments. Mais, raison d'État oblige, on ne pouvait pas aller contre l'opération d'intérêt national. Hein. Nous avons été déboutés avec une pénalité que nous devions payer à la Société du Grand Paris, n'est-ce pas ? Que nous avions dérangé en l'obligeant à proposer des mémoires en défense vis-à-vis de notre recours. Pour le moment, la Société du Grand Paris n'a pas eu le front de nous réclamer le paiement des pénalités.
Hein. Qui se montait à combien ?
Oh, bah, ça se monte en gros à 500 euros par association.
D'accord.
Donc, ça fait 4000 euros par recours. Quoi.
Quand même.
C'est le tarif moyen de ce que coûtent des avocats lorsque vous vous lancez dans ce genre d'opération. Hein. Parce que nous aussi, ça nous a coûté 4000 euros. Hein. Ça nous a coûté 4000 euros d'avocats, en gros, et bah, derrière, plus 4000 euros de pénalités. Bon, bah, souhaitons que la Société du Grand Paris continue de nous oublier. Mais sinon, peu importe. Hein. On les paiera parce qu'on veut rester indépendant.
Hein. En tout cas, merci beaucoup. On va continuer à suivre cette journée sous le soleil. Hein. Sous le soleil et...
Ouais, sous le soleil, exactement.
Exactement.
Pas n'importe où. À milieu de l'enclin.
Merci beaucoup.
La 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 la
projet c'était construire Paris-Saclay, une Silicon Valley sur des terres cultivées. On s'y est opposé, signé, tracté, marché. Mais malheureusement, ça n'a jamais rien donné. L'État a dit, on va faire le Grand Paris, relier les technopoles, les bétonner les sols, faire une ligne en plein champ, une guerre aux vivants, éteindre la capitale, leur faire crever la dalle. La, 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 la. Grand Paris Express, de tomates j'ai planté au jardin d'Aubervilly. Mais à Saint-Hilaire, nos déchets sous terre, nos luttes sont sans frontières et révolutionnaires. Nos luttes sont sans frontières et révolutionnaires. La, 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 la. Grand Paris Express, des tomates j'ai planté au jardin d'Aubervilliers, collé à Saint-Hilaire, nos déchets sous terre, nos luttes sont sans frontières et révolutionnaires, nos luttes sont sans frontières et révolutionnaires. La 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 la.
Cette fin août 2022 au matin, à l'appel des soulèvements de la terre de la Confédération paysanne, 300 personnes ont investi dans le Var une parcelle de vigne de Château-Esclan, accaparée par le groupe LVMH et dirigée par le milliardaire Bernard Arnault. Cette vendange militante était en action car le raisin qui était initialement destiné par Bernard Arnault à la production et à la cuvée Whispering Angels. Et c'est sur ce domaine que le milliardaire revendique fièrement de produire le rosé le plus cher du monde. Le vignoble du Var est, lui aussi, la proie d'investisseurs qui font flamber le prix du foncier et placent l'avenir du territoire sous la mainmise de grands groupes. Cette nouvelle reprise de terre visait donc à s'en prendre en action à l'accaparement des terres agricoles et à la financiarisation qui en découle. Et donc nous vous proposons ce reportage réalisé par Radio Zinzine intitulé « Les vendanges de la colère ».
Donc ici, on se trouve sur les parcelles du château d'Esclan qui a été racheté à 55% par LVMH, par Bernard Arnault. Donc qui, ce sont ces pratiques de société, de rachat de parts qui contournent les outils de régulation du foncier qu'on a aujourd'hui, qu'on veut dénoncer.
Vendange de la colère, une émission de Radio Zinzine. Nous sommes le 28 août 2022 sur la commune du Mouy, dans le Var, pour une action de vendange militante organisée par la Confédération paysanne et les soulèvements de la terre.
Pour le déroulé un peu de l'action, donc là l'idée, on va vendanger un peu les parcelles de Bernard Arnault pour reprendre un petit peu de ses profits qui s'accaparent. Alors, sur le déroulé, on veut absolument que les vendanges soient propres et que les vignes soient préservées. On prend le raisin dans les caisses qu'on va recharger dans les voitures. Donc ça va être la première partie de l'action. On fait ces vendanges tranquillement, on ramasse le raisin et après, on repart en manifestation et on va aller devant le caveau en construction, là-bas au rond-point, pour presser tout ça.
Il y aura des chefs de rang, du coup, qui vont vous distribuer des épinettes avec une caisse vide. Vous partez avec votre binôme, vous remplissez la caisse, vous la ramenez pleine au bout du rang et vous redonnez les deux épinettes à votre chef de rang. Voilà, amusez-vous.
Non, si tu savais, ton pinard, Bernard, si tu savais, ton pinard, qu'on en fait. Du jus, aucune hésitation, on boit à la révolution. Bernard, si tu savais, ton pinard, Bernard, si tu savais, ton pinard, ce qu'on en fait. Du jus, aucune hésitation, on boit, à la révolution.
Alors, peut-être tu veux te présenter, tu fais partie de la Confédération Paysanne et très impliqué dans cette action qu'on a aujourd'hui dans le Var.
Oui, ben, Sylvain Apostolo, je suis co-porte-parole de la Confédération Paysanne du Var. Voilà, c'est une action nationale entre la Confédération Paysanne et Soulèvement de la Terre pour dénoncer l'accaparement des terres qui a lieu ici mais aussi et partout en France, qui a la particularité de se faire à travers l'achat de parts sociales qui permet de contourner les outils de régulation qu'on a aujourd'hui et pour répartir les terres. Donc ici, on est sur une parcelle qui appartient à LVMH, à Bernard Arnault, qui est un homme milliardaire et qui considère l'agriculture comme des fonds d'investissement. Et nous, on vient rappeler que c'est l'agriculture et la terre, c'est un bien commun et qu'il faut qu'elle reste aux paysans et aux paysannes et qu'on se la répartisse.
Traditionnellement, ici, historiquement, c'était toujours des grands domaines ou il y avait une époque où c'était plutôt, enfin, les plus petites fermes, enfin, des viticultures.
Bon, il y a toujours eu un peu de tout, on va dire, mais là, aujourd'hui, on a affaire, en fait, à des groupes financiers, à des holdings qui ont des volontés de prédation assez agressives et qui rachètent les terres, qui mettent vraiment la pression sur des territoires. Et on a une vraie pression foncière sur les terres. Aujourd'hui, dans cette vallée, on est passé de 45 000 euros à 120 000 euros en l'espace en quelques années. Donc c'est une flambée des prix, c'est une concentration avec des situations de quasi-monopole. Donc là, avec l'enjeu de renouvellement des générations qui arrive, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 50% de la population agricole qui va partir à la retraite dans les 10 ans qui viennent, il va y avoir de vrais enjeux de concentration des terres et de renouvellement des générations. Quoi.
Alors ce domaine-là qui appartient, je crois, à 55%, si j'ai bien compris, à LVMH, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Ça fait combien d'hectares ?
Alors là, le domaine aujourd'hui, il a plus de 400 hectares, mais il a 140 hectares de vignes. Mais en fait, avec tout le raisin qu'il achète autour, on estime que ça équivaut à une surface de 1000 hectares. Alors après, il achète du raisin à des viticulteurs et pas forcément à un mauvais prix d'ailleurs. Mais ce qu'on dénonce, c'est la mainmise sur un territoire et la quasi-situation de monopole. Parce qu'après, quand il sera plus que tout seul, c'est lui qui va faire la pluie et le beau temps sur des zones entières. Quoi. Donc ça, on peut pas l'accepter. On a un enjeu à ce que l'agriculture reste diversifiée avec des paysans et des paysannes nombreux qui permettent de répondre aux enjeux qui vont se présenter à nous, climatiques, alimentaires, qui arrivent dans l'avenir. Quoi.
En fait, quelque part, ils remplacent la coopérative qui, sans doute, quand même existe aussi ici, non ?
Oui, oui. C'est-à-dire que par le fait qu'ils s'accaparent des terres, qu'ils rachètent du raisin des fois plus cher que la coopérative pour leur faire concurrence, c'est amené à mal les outils collectifs, qui étaient des outils qui ont été créés justement contre les groupes financiers, les groupes qui rachetaient du raisin pas cher. Et donc c'était des organisations collectives qui avaient pour but de maîtriser la commercialisation pour lutter contre justement les vendeurs de vin, quoi.
À partir de cette action, est-ce que vous avez des idées comment poursuivre en quelque sorte cette lutte contre la... On pourrait presque appeler ça la gentrification de l'agriculture, quelque part.
Oui, bah, c'est ça. Bah, après, c'est aussi là, une des revendications, c'est avoir une vraie loi frontière qui protège les terres et qui permette de les répartir. On sait très bien que cette lutte, ça s'inscrit déjà dans une suite d'actions qui a déjà eu lieu et que c'est des luttes de longue haleine. Mais on veut mettre en lumière cette problématique pour que toute la population se rende compte de ce qui se joue dans l'agriculture à l'heure actuelle.
Mais j'aimerais bien comprendre un peu cette spécificité avec ces sociétés par rapport à cette affaire. Parce que vous avez dit qu'enfin, quelque part, ça contourne, ça ne fonctionne pas comme il faudrait avec les institutions qui sont quand même là pour réglementer, pour régler un peu les questions de vente de foncier.
Mais en fait, aujourd'hui, la SAFER peut intervenir dans une vente lorsqu'il y a une transaction de terre classique, on va dire. Un vendeur A et un acheteur B, et il y a une parcelle qui se vend. En fait, là où elle ne peut pas intervenir à l'heure actuelle, c'est dans l'achat de parts sociales, dans des sociétés. Alors, il y a une loi qui a été faite fin 2021, qui est la loi Sempastous, qui avait pour objectif justement de réguler ces achats de parts. Et en fait, elle a été complètement vidée de son contenu, donc on sait que ça va être quasiment inapplicable parce qu'il n'y a pas les moyens et les conditions vont être trop compliquées à réaliser. Donc on sait déjà, même elle n'est pas encore promulguée, que ça va être inapplicable. Donc en fait, c'est ça l'enjeu, c'est que là, les achats de parts sociales, au lieu d'acheter un domaine entier, ils achètent 55%, ils prennent le contrôle comme ça, et ça permet de s'agrandir et d'augmenter ces espèces de filiales et d'holding. Et c'est de cette façon qu'ils contournent ce qu'on appelle en agriculture le contrôle des structures, mais voilà, les moyens de régulation qui permettent de répartir le foncier, quoi.
Mais vous, à la Confédération Paysanne et peut-être à l'ADR et tout ça, vous avez connaissance de jeunes, peut-être, ou peut-être moins jeunes, mais qui voudraient s'installer en viticulture dans la zone, et en fait, ça devient très très difficile.
Ben là, ça devient même impossible, parce qu'au prix de l'hectare, pour des jeunes qui sont en dehors de l'agriculture, c'est quasiment impossible de s'installer aujourd'hui. C'est ça un peu le problème qu'on porte. Et même pour ceux qui héritent, il y en a qui ne savent même pas comment ils vont faire pour payer les frais de succession, quoi. Donc, parce que ça a pris trop de valeur. Donc c'est ces enjeux-là au niveau territorial qui se posent, quoi.
Merci beaucoup.
Paysanne, paysanne, nous chérissons la terre. Paysanne, paysanne, la terre de nos enfants. Paysanne, paysanne, plus question de nous taire. Paysanne, paysanne, solidaire et vivant. Ils ont empoisonné la terre, asséché les marais, arraché la venue vénère, clos les larches de Noé. Paysanne, paysanne, nous chérissons la terre. Paysanne, paysanne, la terre de nos enfants. Paysanne, paysanne, plus question de nous taire. Paysanne, paysanne, solidaire et vivant. Du Larzac, Notre-Dame des Landes, ils veulent accaparer nos terres. Aucune mauvaise à défendre pour plus de terres nourricières. Partageons les luttes du monde avec bien Campesina. Partout où la colère gronde, la France toujours sera là. Paysanne, paysanne, nous chérissons la terre. Paysanne, paysanne, la terre de nos enfants. Paysanne, paysanne, plus question de nous taire. Paysanne, paysanne, solidaire et vivant.
Voilà, donc là, on se remet en ordre de marche. Les voitures font demi-tour et elles nous suivent dans le cortège. On y va à pied, quand il n'y a que ces voitures-là qui sont chargées de raisins, et avec les presses qui nous suivent. Voilà.
Nous voilà partis à pied vers la place devant la future cave de Bernard Arnault, une distance d'environ 1 km, accompagnée par la fanfare de la Redonne, bien connue lors de mobilisations dans la région.
On va mettre en place l'atelier pressage. Il y a les voitures avec les caisses, les trois pressoirs. Et donc, il va falloir se partager un peu le travail. Il va falloir des équipes qui qui bosse sur le foulage et le pressage du raisin.
J'ai le désir de ce vin d'où me vient toute joie.
J'ai le désir de ce vin d'où me vient toute joie.
Et j'ai le désir de ce vin d'où me vient toute joie.
Il était un petit écolo,
il était un petit écolo.
Qui n'avait jamais vendangé, qui n'avait jamais vendangé, ohé ohé.
Ohé Bernard Arnault, on te vole ton pinard qui coule à flot.
Quelques dizaines de personnes se mettent à fouler les raisins dans les nombreuses caisses. Ensuite, les raisins foulés sont versés dans les trois pressoirs qui sont tournés manuellement sous la direction de trois vignerons du Var, membres de la Confédération paysanne.
Si t'es fier d'être vendangeur, si t'es fier d'être vendangeur, si t'es fier d'être vendangeur, frappe dans tes mains.
Je me suis installée comme vigneronne il y a un an et demi. Et j'ai eu la chance de trouver des terres après 2 ans de recherche dans le Var, la région, enfin le département où j'ai grandi, où je voulais être, quoi. Et voilà, j'ai eu la chance de pouvoir m'installer, et c'est pas le cas pour tout le monde ici, mais ça a été long, mais je suis très contente, ouais.
Oui, parce que ce que je comprends avec cette action aujourd'hui, c'est que ça devient vraiment de plus en plus difficile.
Oui, oui. Bah là, on est dans une zone où les prix des terres dans le vallon des Esclans, avec en Côte-de-Provence, il est passé de 50 000 à 120 000 euros en quelques années, en moins de 10 ans. Et donc, c'est sûr que pour s'installer, enfin, c'est très dur. Hors cadre familial, c'est même impossible, en fait. Donc moi, je ne me suis pas installée dans ce coin-là parce que c'est absolument inaccessible. Mais je suis dans un coin où les terres, elles sont encore à peu près abordables, ouais. Ouais.
Il y a moins ce phénomène de société qui prennent de plus en plus des vignes.
Bah si, par exemple, moi j'ai réussi à trouver des terres, mais en fait c'est un domaine qui appartient à un millionnaire belge qui revend des terres de son très grand domaine parce que c'est plus rentable et tout ça, quoi. Et c'est sûr qu'en plus, quand tu trouves des terres et que t'es hors cadre familial, tu tombes pas sur les plus jolies, quoi. Mais bon, ça va, j'étais déjà en conversion bio et c'était pas mal.
Mais votre collègue là-bas m'a dit qu'il y a quand même un risque de perte d'une sorte de tradition, d'une culture de vigne. De plus en plus, en fait, c'est ces grandes sociétés.
Oui, pour... Je peux vous dire, le domaine qui m'a du coup vendu les terres, il y a donc le propriétaire, puis ensuite il y a un certain nombre d'employés qui sont quand même très détachés de ça. Et donc tu as un œnologue qui vient, puis un chef de culture qui passe de temps en temps, qui donne des conseils, et là-dessus des tractoristes qui font le boulot, mais c'est complètement déshumanisé, quoi. Et là, on parle plus de culture, on parle de répondre à un produit de marché type rosé Provence, exact qu'on veut, et avoir des vignes qui produisent aussi au max pour que ça reste rentable, parce que même si c'est un système de défiscalisation d'acheter un domaine dans le sud, il faut quand même que ça soit un peu rentable, quoi.
Apparemment, ils utilisent beaucoup d'eau maintenant, ce qui n'est pas du tout dans les traditions.
Ouais. Alors ça, on voit beaucoup de vignes irriguées. Moi, je peux le citer, hein, le château de Berne à l'Orgue, qui détourne carrément le canal de l'Orgue, quoi, pour récupérer de l'eau et arroser ses vignes. Et là, on est dans on marche sur la tête, quoi. On est une production qui n'est pas nourricière, et en plus une plantation de plantes méditerranéennes, et on va arroser ça. Enfin, c'est au détriment de d'autres personnes à côté, des maraîchers, ou enfin voilà, ça n'a pas de sens. Voilà, c'est vraiment, vraiment pas de sens. Ouais.
Et là, avec le conf, vous avez quand même un peu un contrepoint. Enfin, vous arrivez à contester un peu ça, ou c'est...
Bah, oui, on est présent dans les comités techniques de la SAFER, mais on est ultra minoritaire par rapport aux autres syndicats, type FNSEA, JA, tout ça. Mais on est présent, oui, dans les commissions sur la faune, alors CDOA, enfin, après, je vais vous sortir plein de sigles, mais oui. L'idée, c'est que sur ces choses-là, ouais, on est présent. On est en lien avec, du coup, le préfet, la DDTM, c'est ça, et aussi d'autres acteurs de tout ça, quoi, la Chambre d'Agri, tout ça. Mais bon.
Et vous avez d'autres collègues un peu de votre âge, enfin, il y en a d'autres assez jeunes qui s'installent?
Ouais, là, au conseil d'administration de la Conf du Var, on est rentré, on est trois à avoir moins de 35 ans. Je ne sais pas si on peut considérer qu'on est jeune, mais cette année, ouais, on est rentré. Enfin, moi, je suis arrivée là comme ça. Et puis il y a aussi Antonin qui est pépiniériste et Vincent qui s'installe en maraîchage. Et du coup, ouais, on a quand même des jeunes qui viennent dans la Conf, et c'est cool. Ça donne un autre souffle pour des actions comme ça et tout ça.
Ouais. Et c'était une belle journée aujourd'hui.
Ouais,
Ben, on reviendra, j'espère.
Ouais, ouais. Super.
Merci.
À bientôt.
Merci beaucoup.
Ouais.
n'est pas sur cette place-là pour rien. C'est juste que cette usine, c'est la future cave ou usine plutôt du domaine du château d'Esclan et de Bernard Arnault qui est en construction, qui est en train de se construire un énorme truc là. Donc c'est pour ça aussi qu'on est venu symboliquement presser ici. Quoi. Voilà, c'est pour ça qu'on est là, c'est dans ce sens-là, quoi, en plein soleil. On était allé visiter le caveau de Bolloré il y a 4 ans. Pour dénoncer l'accaparement des terres déjà et l'accaparement, pour le coup, là, qui était plus international parce que cette personne possède plus de 300 000 hectares sur le continent africain. Donc là, aujourd'hui, on continue la tournée des Grands-Ducs, hein, parce qu'on en a quelques-uns dans notre département. Donc aujourd'hui, c'est LVMH et Bernard Arnault. C'est vraiment le sens de cette action, c'est de dénoncer l'accaparement des terres et sa financiarisation qui aujourd'hui prend un sens d'achat de parts sociales, de holdings et de sociétés qui investissent dans l'agriculture et qui s'agrandissent et mettent la pression sur les territoires. Donc ce qu'il faut bien voir, c'est que cet accaparement et ces agrandissements, ça met une pression sur un territoire qui est assez énorme. C'est-à-dire que une pression au niveau de la spéculation foncière. Ici, on est passé de 45 000 euros l'hectare à plus de 120 000 en moins de 10 ans. Donc, c'est-à-dire que tout flambe. Et donc, on arrive dans des zones comme ici à des quasi-situations de monopole. Il faut savoir un peu ce que ça représente, ces achats de, ces transactions par achat de parts sociales. Aujourd'hui, ça représente 6% des transactions, que c'est pas grand-chose, mais en fait, quand on commence à regarder en termes de surface, ça représente 58% des surfaces. Donc en gros, à l'heure actuelle, c'est la majorité des surfaces agricoles qui sont vendues, qui sont rachetées par les systèmes de parts sociales. Si à côté de ça, on croit ça avec les enjeux aujourd'hui de renouvellement des générations qui va se présenter au niveau de l'agriculture, c'est-à-dire que dans les 10 ans qui viennent, il y a presque 50% des paysans et paysannes qui vont prendre la retraite. Donc on va avoir des enjeux au niveau du renouvellement des générations qui va être essentiel et fondamental. Et on risque d'avoir des effets boule de neige, d'accaparement de plus en plus important, de par ces ventes qui vont être de plus en plus massives, quoi. Et de la diminution du nombre de paysans.
Salut les vendangeurs, salut les vendangeuses. J'espère que vous avez pu bien faire usage de vos outils ce matin, que vous êtes tous super contents d'avoir fait cette récolte. En tout cas, nous, on est vraiment absolument ravis. Ce jus n'en aura que meilleur goût quand on sait d'où on l'a pris. Et on est absolument ravis de répondre à l'invitation de la Confédération Paysanne pour récolter les fruits de l'accaparement. C'est une très belle action symbolique qu'on fait aujourd'hui, mais on pense que récolter les fruits de l'accaparement, il faudra le faire demain. Dans bien d'autres départements, en bien d'autres endroits, et pas que sur le vin, avec des moissonneuses-batteuses, avec des faucheuses, avec tous les outils de travail que les uns et les autres paysans et paysannes, on utilise dans le cadre de notre quotidien. La conf, ils ont un certain sens de l'humour, puisque la dernière fois, ils nous ont fait venir dans le Jura pour arracher des vignes qui partaient à l'enfrichement et qui appartenaient à un milliardaire russe. Et aujourd'hui, donc, on a été invités à récolter les vignes de Bernard Arnault. On aurait bien voulu vraiment y rester toute la journée, prendre beaucoup plus de quantité de raisins, mais on espère que l'année prochaine, on pourra faire ça avec encore plus de temps devant nous et encore plus de monde. Je vais juste vous toucher deux mots de la saison des soulèvements qui vient et deux mots sur la question de l'accaparement. Nous, au niveau des soulèvements de la terre, la question de l'accaparement des terres par le complexe agro-industriel, de l'agrandissement, de la concentration, du phénomène sociétaire, c'est quelque chose qui est au cœur de nos préoccupations politiques, mais c'est un thème sur lequel on a du mal à la fois à trouver des leviers d'action et à la fois à être compris du grand public, parce que c'est des questions assez techniques. Et si on veut expliquer dans le détail la défaillance de la régulation, les défaillances de la CDOA, les défaillances de la SAFER, ça implique d'un coup d'employer plein de sigles, plein de concepts juridiques que personne ne comprend, alors que quand on va vendanger chez Bernard Arnault et qu'on dit lui, il prend plein de terres, c'est déjà un peu plus simple à comprendre pour les uns les autres. Mais on voudrait quand même que ces actions contre l'accaparement, elles se multiplient, qu'il y en ait dans d'autres départements, et qu'elles essayent d'articuler ensemble plusieurs stratégies. Une stratégie qui est celle qu'on a fait aujourd'hui, récolter les fruits de l'accaparement. Mais il y a aussi d'autres gestes possibles. Il y a l'occupation, la réquisition. Il y a aussi des stratégies de pression vis-à-vis des institutions, des CDOA, des SAFER quand elles ne font pas leur rôle. Et tout ça, on espère que à la suite de ce qu'on a engagé l'année dernière avec les formations à Bagnolet et la suite des liens avec les différentes confs départementales et le boulot considérable qui est fourni par la commission foncier de la conf, on espère que tout ça, dans les années qui viennent, on va réussir à en faire un enjeu vraiment plus visible et plus fort nationalement. Parce que c'est sûr que c'est plus facile pour nous, quand on démantèle une bassine en plein jour, d'être vu et compris par un très grand public que sur ces questions-là, alors qu'elles sont tout aussi cruciales pour nous. Elles sont cruciales parce que précisément, la moitié des terres dans ce pays avec les départs à la retraite vont changer de main dans les 10 ans à venir. Et que si on veut prendre au sérieux la question écologique, la question de la défense de la nature, eh bien il faut qu'on prenne ces terres, il faut qu'on les reprenne, il faut qu'on s'installe légalement, illégalement, en collectif ou tout seul, mais il faut qu'on prenne ces terres et qu'on les cultive. Et c'est ça prendre l'écologie au sérieux, c'est ça refaire descendre l'écologie sur terre. C'est pas simplement faire des pétitions, réclamer des lois, mais c'est agir ensemble tout de suite sur la question des terres. Et je vais finir en vous donnant 2-3 éléments de la saison qui vient, des soulèvements. Du coup, le prochain gros rendez-vous auquel on vous invite vraiment à venir à converger de toute la France, même si ici c'est loin, c'est la manif fin de chantier contre le démarrage des travaux des bassines. Les bassines, c'est une des infrastructures stratégiques pour permettre la poursuite du développement du complexe agro-industriel malgré la pénurie d'eau. Et donc là, on est parti sur l'idée qu'on ne laissera pas faire une bassine de plus ni dans le Marais Poitevin, ni ailleurs, que ce projet il est préfigurateur d'un déploiement au niveau national de ces infrastructures, qu'elle bénéficie à une infime minorité d'exploitants agricoles, dont la plupart des productions vont à l'export. Donc voilà, c'est de la maïsiculture, c'est des gros céréaliers, etc. Et du coup, le démarrage des travaux est imminent, probablement annoncé le 5 septembre. Il y aura très vite une annonce de la date de la manifestation. Je peux déjà vous dire qu'il y a de fortes chances qu'elle soit le week-end du 1er et 2 octobre. Et on espère qu'il y aura autant de bus que de la conf que pour le printemps maraîchin. Autant de monde qui est venu de partout. On était plus de 7000. Et l'idée, c'est de mettre fin au chantier, défaire ce qu'ils ont fait ou empêcher qu'ils continuent par tout un ensemble de moyens différents avec nos cultures différentes, nos manières de faire. Donc on espère vous voir vraiment très nombreux et il y aura des réunions publiques dans toute la France en vue de cette manifestation. Et ça, c'est un peu le premier élément. Et ensuite, les deuxièmes éléments au niveau de la saison, c'est que des bassines, il n'y en a pas que pour l'agro-industrie en Deux-Sèvres. Il y a également toute la montagne qui est artificialisée pour les loisirs des gens du style de Bernard Arnault qui ont ce type de niveau de vie-là, avec des rétentions d'eau pour les canons à neige. Et du coup, il y a une action qui n'est pas annoncée par une date publiquement, mais une action qu'on va tous vous inviter à soutenir, qui va se mener là-bas du côté de l'Aclusaz, et qui va consister à poser des gestes forts d'occupation, de blocage pour empêcher ces travaux de commencer. Et donc, on vous tiendra au courant par le biais de la lettre d'info des soulèvements et par les réseaux pour que vous puissiez tous et toutes vous mobiliser et venir. Voilà, on va continuer aussi à travailler sur l'axe de l'artificialisation où il y a eu des mobilisations les années précédentes, que ce soit autour des sites Lafarge ou encore très récemment, le 3 juillet dernier, une manifestation contre les carrières à Saint-Colomban, on était plus d'une cinquantaine de tracteurs et 700 personnes. Il va y avoir d'autres épisodes de ce type dans les mois qui viennent, d'autres mobilisations contre le bétonnage, l'artificialisation. Et il y a aussi des réflexions, des enquêtes qui commencent à se mener sur la question des transports, des routes, sur la question aussi de l'accaparement des terres à des fins énergétiques, sur le photovoltaïque, ce genre de choses. Et donc tout ça, c'est des groupes de travail dont on espère qu'ils vont aboutir très vite à des campagnes et à des actions futures. Et j'espère aussi qu'on se retrouvera en d'autres circonstances pour aller plus loin ensemble. C'est toujours assez grisant d'avoir un chantier comme ça juste à portée de main et de voilà, la prochaine fois. On compte sur vous.
Donc cette manifestation avait pour but de revendiquer une vraie loi foncière, une loi qui lutte contre l'accaparement des terres, qui intervient avec des moyens sur les transactions de parts sociales, mais qui aussi protège les terres agricoles contre la bétonisation. Notre département, malheureusement aussi, c'est un problème qu'on connaît bien et c'est un véritable fléau, quoi. Aujourd'hui, on vendange Bernard Arnault et ses vendanges sont les vendanges de la colère. Parce que pour que la terre reste aux paysans et aux paysannes et qu'on ait des paysans nombreux et des paysannes nombreuses. les enjeux à la fois alimentaires qui se posent à nous et à la fois du réchauffement climatique, on l'a bien vu avec cette année exceptionnelle où on n'a jamais vu ça, où on a eu si peu d'eau, ces enjeux-là nécessitent d'avoir des paysans et des paysannes nombreux, d'avoir une diversité agricole sur les territoires pour fournir une alimentation diversifiée à la population. Donc c'est ces enjeux-là qui sont essentiels et pour ça, il faut avoir des paysans et des paysannes nombreux. Il faut que la terre reste aux paysans.
Pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine, sur Nicolas Garrig, à Montpellier, Canastille, à Toulouse. Donc, bien évidemment, Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.